Fier de vous accompagner depuis 140 ans, Langteau Couvre-Sol Design vous offre conseils judicieux et services personnalisés. Mettez en valeur votre décor. Vaste choix de céramique, bois franc, vinyle, carpette ou même revêtements muraux. Langteau Couvre-Sol Design à Longueuil et Saint-Isidore. Un seul nom, deux emplacements pour vous servir. LangteauCSD.com.
En laissant un message privé ou par téléphone, Carl Ferraro et toute son équipe sont dédiés à vous servir. Le dépanneur Nobert, 740 Nobert à Longueuil, 450-646-9467.
Vous rêvez d'un plancher de bois? Passez maintenant à l'action chez Langteau Couvre-Sol Design. Jusqu'au 28 avril, profitez d'un rabais de 15% avant taxe à l'achat d'un plancher Mercier sélectionné. Pour économiser, visitez nos boutiques Langteau Couvre-Sol Design de Longueuil ou Saint-Isidore. Des conditions s'appliquent.
Tu veux jouer un rôle important auprès des usagers de l'urgence? Laisse ton empreinte dans l'un de nos hôpitaux à Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe ou Longueuil. On t'attend au 6 de la Montérégie-Est. Postule à CISSS.me/emploi.
Nouvelle FM 103.3.
Il est midi, ici Henri-Paul Raymond. Le conseil municipal de Saint-Bruno-de-Montarville a attribué à des entreprises QMD de Montréal le contrat pour la construction d'une patinoire multifonctionnelle et de terrains sportifs au parc Marie-Victorin. La patinoire doit être d'une superficie de 85 pieds par 200 et le maire Ludovic Rizé-Faron est optimiste quant au respect des délais grâce à l'expérience de QMD. Il anticipe même que la patinoire sera en mesure de répondre aux besoins des amateurs de sport de glace. Le projet comprend également des terrains de basket, de pickleball, de hockey cosum. Une mise en service est prévue pour le printemps prochain et une première glace en hiver 2025. Ce site polyvalent pourra accueillir durant l'été les camps de jour cajou et diverses activités de loisirs. Le contrat est d'une hauteur d'un peu moins de 18 millions de dollars. Le gala du défi Ose entreprendre de la MRC Marguerite Diouville souligne la performance de 9 entreprises de la MRC lors de l'événement tenu à Verchères. La soirée avait lieu le mardi 26 mars. Ces entreprises ont été honorées pour leur audace et leur contribution au développement économique local. Le gala a reconnu des entreprises dans divers secteurs, dont Ferme Majulé et l'épicerie Pivot, toutes deux de Varennes, pour leur initiative novatrice. 3 prix distinction ont également été attribués, mettant en avant des projets communautaires remarquables, comme l'érudit café de Verchères. Le prix distinction coup de cœur est d'ailleurs allé à Paysage Calixois de Calixois. Les lauréats représentent la MRC au niveau régional maintenant, aspirant à la finale nationale. Les finalistes pour les différents prix Excellence de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud étaient dévoilés hier après-midi. Ce dévoilement se déroulait au Théâtre de la Ville à Longueuil. Plus de 75 entreprises ont soumis leur candidature dans le but d'être considérées parmi les 3 finalistes de l'une des 13 catégories. Le directeur principal des ventes et développement des affaires chez Beneva, le partenaire de l'événement, Christian Vanas, tenait à souligner l'importance d'un tel événement pour mettre en lumière des entreprises de la Rive-Sud que l'on ne voit pas tous les jours.
Il y a des entreprises qui passent sous le radar, qui ne sont pas médiatisées, puis qu'on peut découvrir ici dans ce gala-là. Donc, ces entreprises-là sont reconnues par les membres de la Chambre et aussi dans le grand public. C'est un coup de marketing un peu gratuit, puis ça nous fait vraiment découvrir des entreprises qui se démarquent, pas seulement dans la région de la Rive-Sud, mais partout à travers le Québec, le Canada, puis même à l'international.
La Ville de Saint-Lambert peut travailler sur la refonte de son plan d'urbanisme grâce à l'appui de toutes les villes de l'agglomération de Longueuil. En fait, le conseil d'agglomération s'est récemment prononcé favorable à cette refonte. La mairesse de Saint-Lambert, Pascal Mongrain, a rappelé que la ville y travaille depuis des années et un registre a même été tenu en 2022 pour son acceptation. Ces modifications sont cruciales pour aligner ses pratiques urbaines avec les directives du schéma d'aménagement et de développement révisées. De plus, l'agglomération de Longueuil devait en approuver la conformité dans son schéma d'aménagement pour que le tout soit valide. Madame Mongrain se réjouit que le conseil puisse maintenant se mettre au travail.
Et l'agglomération de Longueuil va demander à la ville de Saint-Lambert de réadopter ses règlements pour qu'ils soient conformes au schéma d'aménagement. Et c'est ce qu'on souhaite faire le plus vite possible. On va entreprendre une nouvelle ère dans notre ville qui a un vieux règlement d'urbanisme qui date de 2008 et qui n'est pas conforme au schéma d'aménagement depuis 2016.
C'est complet. Pour plus d'informations, visitez le fm1033.ca.
Les auditeurs du FM 103.3, abonnés de Belfib, peuvent nous entendre via le canal 962. FM 103.3, toujours allumé.
L'entrepreneur branché avec Max Trudel au FM 103.3.
Bon jeudi midi et bienvenue à l'entrepreneur branché, Max Trudel, avec vous pour la prochaine heure, comme à toutes les semaines. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Amélie Morancy, entrepreneur et chef des opérations fractionnelles, ou fractional CEO, comme on dit dans le domaine, qui va venir nous parler un petit peu de son parcours, je vais dire un peu hyperactif dans le monde de l'entrepreneuriat. Et par la suite, on aura Annie Boilard qui va venir nous mettre à jour, nous parlant des derniers buzzwords du monde du travail, les dernière tendance là, qu'on peut voir en termes de RH. Donc, on est en mode, je veux dire, découverte ce midi et on va tirer dans toutes les directions. Donc, restez alerte, restez avec nous. On va vous tenir éveillés pour que vous continuez votre journée du bon pied. Je l'accueille tout de suite. Amélie Morancy, bienvenue à l'émission.
Oui, ça va?
Ça va super bien. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. T'as eu énormément de projets. T'avais, là, à l'époque où on s'est connus, il y a je ne sais pas combien d'années déjà, fondé le Food Room, qui était une espèce de cuisine collaborative, espace partagé. T'étais allé au Dragon. Après ça, t'as fait un paquet de formations. T'as touché à tout ce qui était dans l'univers startup. Et là, t'es rendu à offrir tes services de gestion, chef des opérations. Yes. Un paquet d'entreprises. Bon, je le résume en une phrase, là. Il y a beaucoup de stock. Parle-nous un peu de ton parcours, comment t'en es arrivé, puis qu'est-ce qui t'a fait naviguer dans tout ça?
Oui, je te dirais que c'était un processus itératif. Oui, comme tu dis, Food Room, ça date de 2015, fait que ça fait un bout. Je pense que moi, j'ai un background très terrain. J'ai un parcours très hétéroclite, dans le sens que le seul style directeur de ma carrière, ça a toujours été comme l'entrepreneuriat. Organiquement, je me suis ramassée à l'époque de Food Room déjà. Je faisais comme des mandats où j'aidais d'autres entrepreneurs parce que j'ai compris assez rapidement que la majorité de mes clients à l'époque étaient des business qui partaient des produits. Comme les gens partaient de business parce qu'ils savaient comment exécuter sur un produit ou un service. Si moi j'aidais mes clients à rester en business, je restais en business plus longtemps parce qu'on avait énormément de churn à l'époque de Food Room. Puis c'était un truc qu'on avait vraiment sous-évalué.
Donc, vous aviez beaucoup de clients qui partaient parce que leur projet finalement fonctionnait pas. Le côté business, le produit était bon, mais le côté business n'a pas suivi. Donc, il fermait finalement.
Ben, ça arrivait souvent. Puis moi, j'avais sous-évalué le fait que mes clients qui étaient aussi des compagnons en démarrage, il y avait un risque pour moi. Puis c'était juste comme, naturellement, j'ai commencé à les aider à essayer de bâtir l'aspect business plus. Puis j'ai continué après avoir fait faillite, à comme avoir des mandats de gens qui venaient à moi pour différentes affaires. Fait que j'ai comme tout le temps un peu fait ça. Puis là, ben tu sais, je me suis trouvé une job où est-ce que j'ai travaillé comme entrepreneur en résidence pour un gars qui faisait l'investissement, comment j'investisseur, après Food Room. Fait que j'ai encore trempé là-dedans où est-ce que je bâtais des business pour d'autres mondes. Puis moi, ce qui me fait vraiment triper, c'est vraiment la dimension de puis je rentre dedans. C'est comme, oui, sure, on a une stratégie, on a une vision, whatever. Mais l'exécution, c'est vraiment la partie où est-ce que souvent ça pète. Puis moi, c'est vraiment ça que j'aime faire. C'est vraiment comme me mettre les mains dedans, puis tu sais, il y a comme une distinction à faire entre genre, c'est quoi un exécutif, c'est fractional, puis un consultant, là. Puis tu sais, c'est un peu pour ça que j'aime pas tant le mot consultant, parce que pour moi, c'est comme quelqu'un qui va genre faire, oui, sure, ouais, c'est ce que tu devrais faire, mais il va pas nécessairement faire avec toi.
Donc, la grosse différence, c'est que toi, tu te relèves les manches, tu te salis les mains, disons-le comme on veut, mais tu fais la job, finalement. Mm-hmm. T'es pas un consultant qui va donner un plan de match et voici ce que vous devez exécuter pour les 6 prochains mois, on va dire. On s'en reparle après. C'est toi qui l'exécute aussi ou qui aide les équipes à s'organiser pour l'exécuter.
Mm-hmm. Fait que c'est comme arrivé naturellement, je pense, parce que j'ai tout le temps aimé passer des business, puis j'étais pas attachée à l'idée que la business devait être une idée que j'avais eue nécessairement, ou que comme c'était à moi dans cette espèce d'optique-là. Fait que commencer à passer des business pour d'autres mondes, c'était comme une extension de ce que je faisais. Puis tu sais, je suis toujours comme un entrepreneur à heart, là, comme ultimement, c'est mon... Ma vision, c'est de rentrer dans d'autres business puis continuer à bâtir d'autres business aussi. Mais là, en ce moment, c'est comme un compromis intéressant qui me permettait de bâtir des business pour d'autres mondes, puis aussi continuer à moi apprendre plein de nouvelles affaires, parce que là, je suis exposée à comme plein de différentes industries puis plein de différents business qui font différentes choses. C'est super le fun parce que j'apprends énormément en le faisant aussi. T'sais.
C'est intéressant parce qu'on a beaucoup de discussions à l'émission là avec toutes sortes d'invités sur la définition d'un entrepreneur. T'sais, on a eu longtemps l'espèce de fame de d'histoire à succès, l'étoile de l'entrepreneur. T'étais allé au Dragon, tous ceux qui étaient là, le buzz autour de l'émission, je pense, a créé ça aussi dans la société. Mais tu sais, être entrepreneur, t'as pas besoin, d'un, avoir une idée. On le dit souvent, c'est pas une entreprise. Après ça, c'est là que la job commence finalement. Là, l'idée, c'est le fun, mais faut le faire. Et t'as pas besoin, à l'inverse, d'avoir une idée de génie pour devenir entrepreneur ou pour mettre à profit ton sens de l'entrepreneuriat. On pense au repreneuriat des fois, mais là, on a un nouveau modèle que tu nous parles, qui est entrepreneur en résidence, fractional C-level, tout ça. Donc, tu peux venir te coller finalement à une entreprise, venir la compléter, puis t'en es pas moins entrepreneur finalement.
For sure. Tu sais, puis je pense qu'il y a comme différentes... C'est drôle parce que c'est une conversation que j'ai eue avec quelqu'un justement cette semaine. Parce que la personne avec qui j'en parlais, elle me disait, pour elle, faire des mandats pour tirer en compagnie, c'était de l'entrepreneuriat. Puis pour moi, ma vision, moyen terme, c'est de revenir dans une business puis dire, c'est ma business. C'est juste que pour moi, en faisant ça en ce moment, ça me permet aussi de rencontrer du monde. Parce que je pense que une des affaires de Food Room que j'ai regretté vraiment longtemps, que j'ai jamais su que j'avais besoin, c'était un co-founder. C'est dans le sens que j'avais une équipe super solide avec moi, mais j'ai tout le temps été comme tout seul en haut au niveau de la charge mentale de ce que c'est d'avoir un business. Puis il y a une couple d'années, quand je suis passée en congé maternité, je suis rentrée dans une business, une agence de vidéo, parce que j'avais vraiment mon fit en termes de rôle et responsabilité, puis la complémentarité que j'avais avec mon partner. Puis cette business-là, la business, on a arrêté, mais ça l'a vraiment validé c'était quoi la relation co-founder que j'aurais voulu. C'est comme, j'ai pas réalisé à quel point j'en avais besoin jusqu'à temps que je l'aie.
D'être vraiment deux, trois, quatre, peu importe combien vous êtes, les deux mains dedans, attachés avec le même niveau de risque peut-être, le même niveau, je veux pas dire d'engagement, parce qu'on a des fois des employés qui sont hyper engagés, là, mais l'espèce de d'hamster qui roule 24-7, là, finalement.
Ouais, c'est ça. Ça, puis je veux dire, c'est même pas en termes de la séparation du niveau de risque, je pense que c'est plus en termes de l'alignement, de, tu sais, comme la charge mentale. Parce que la business, c'est comme que t'es 20% ou 80% ou whatever, on s'en fout ultimement. C'est plus comme, est-ce qu'on est aligné sur où est-ce qu'on s'en va, puis comment on va y aller, puis que, tu sais, ultimement, toutes les décisions qu'on prend, on est capable, nous, en tant qu'humains, de genre, on se respecte dans ce processus-là, on est capable d'avoir des conversations. Parce que, tu sais, ultimement, comme, ce gars-là, c'est encore mon ami, mais comme, quand on travaillait ensemble, j'y parlais tellement plus que je parlais avec ma femme, avec qui je suis mariée, tu sais, comme, je dis, la relation, quand tu dis le niveau de closeness que tu as avec un partner quand tu as du business, c'est tellement intense.
Effectivement, on le dit souvent, c'est plus dans certains sens qu'un mariage. Tu passes tellement d'heures ensemble, t'es responsable de tellement d'employés, je veux pas dire de milliers d'enfants ou de dizaines d'enfants, mais tu te sens responsable, puis c'est un peu ça que je sens là quand tu dis d'avoir un partner, finalement, c'est d'avoir quelqu'un avec qui tu peux être 100% transparent, ouvert, quand ça va bien, quand ça va mal, parce que tu sens pas que t'as une responsabilité envers cette personne-là, tandis qu'un employé, même un exécutif ou peu importe, tu peux des fois sentir que Colin, il faut que je travaille plus fort pour qu'il garde sa job. L'autre, regarde, on est au même niveau, puis si on la perd, on s'est entendu au début que tough luck, mais ce sera ça. Fait que c'est un peu ça là, que j'entends.
Oui, 100%. Puis c'est un peu ça que j'essaie de répliquer. C'est dans le sens que en faisant du fractional executive, c'est pas tout le monde qui a le luxe d'avoir un partner. Puis des fois, t'as juste besoin d'avoir un bouncing board, puis tu as eu un appel, tu es comme ah, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? T'sais, puis d'avoir accès à un deuxième cerveau, c'est un peu ça que j'amène en ce moment maintenant parce que je rentre quand même dans l'intimité d'un autre entrepreneur, right? C'est comme je vais t'aider à bâtir ta business, mais il y a comme quand même un niveau de confiance puis de disclosure qui doit être là pour que ça marche bien. Mais c'est vraiment humbling, I guess, pour moi aussi, de comme rentrer dans la vie de quelqu'un de même. Mais aussi, tu sais, c'est vraiment le fun en termes d'expérience entrepreneuriale parce que c'est vraiment chaque business est différente parce que ça dépend de comment tu l'as.
Tu peux découvrir un paquet de modèles, tu peux découvrir un paquet de réalités, d'industries, etc. Pour avoir été consultant, moi, j'appelais ça consultant à l'époque, c'était pas mal dans les mêmes cordes, mais je me mettais les mains ici et là. Des fois, il y en a qui me disaient, ça tente pas de joindre l'entreprise, tout ça, mais justement, ça m'a permis de tâter le terrain à plein de places, tâter le côté relationnel avec les entrepreneurs aussi, puis finalement, on s'est trouvé un projet avec un groupe qu'on a lancé, qu'on est allé plus loin, qui est devenu Evolia maintenant, mais on a tenté le terrain à droite à gauche, fait que t'es sûr rendu là que tu prends une décision en connaissance de cause, que t'es bien là-dedans, quand t'es prêt à reprendre ton envol. Juste pour les gens qui sont moins familiers, là, on parle de fractional CEO, chef des opérations, par rapport aux consultants, là j'entends il y a un peu de coach à travers ça, mentor, comment ça se situe, puis à quel moment si je suis de l'autre côté, je suis l'entrepreneur, je me dirais, ben il faudrait peut-être que je pense aller me chercher un fractional, que ce soit un chef des opérations, du marketing, des ventes, des finances, on l'entend dans tous les domaines. C'est quoi le trigger qui dit, hey, ça serait peut-être ça que j'aurais besoin plus que d'un fournisseur, d'un consultant ou peu importe?
Ouais. Je pense que la décision ou le use case le plus connu, c'est les CFO, là. Puis le raisonnement s'applique à tous les autres types d'exécutifs, là. À la base, c'est comme, j'ai pas un workload à temps plein. Slash, j'ai pas financièrement le moyen de me payer un exécutif temps plein. T'sais, ça, c'est comme le rationnel premier, je pense. Puis, tu sais, CFO, c'est très commun parce que le monde a souvent, tu sais, j'ai un comptable qui va faire la tenue de livre ou whatever, mais j'ai besoin de quelqu'un pour faire le high level.
La stratégie financière de l'entreprise qui est tellement importante et qu'effectivement, plusieurs entrepreneurs qui viennent pas du monde des finances, c'est souvent un peu le talon d'Achille.
Fait que, je pense que le use case le plus connu, c'est définitivement celui-là. T'sais, après ça, CEO, c'est vraiment plus souvent un use case où est-ce que c'est un numéro 2. Puis moi, dans les dynamiques où est-ce que je me retrouve, c'est souvent avec des CEO ou des présidents de compagnies, d'entreprises qui sont the star of the show, dans le sens que c'est comme c'est ou bien une personne qui code, qui a créé une innovation, qui a développé un produit quelconque, ou qui est la personne qui va produire le produit.
Des experts de leur produit qui ont les deux mains dedans, mais qui ont peut-être moins le côté business de la chose, créer le modèle d'affaires, organiser une force de la vente, marketing, etc.
Ben ça, ou bien ça devient comme right quand tu bâtis une business, la dimension rouler la business devient pour pas tout le temps, mais parfois genre un fardeau dans le sens que moi ce que j'aime faire c'est telle affaire, mais parce que je suis rendu que j'ai genre 150 employés ou whatever, même si c'est juste 30 ou 10, il y a toute la dimension gestion de cette business là qui m'empêche de passer autant de temps que je voudrais sur faire l'affaire qui est la raison pourquoi j'ai créé la compagnie in the first place.
Donc, je ne vis plus de ma passion, je veux retourner là, je veux continuer de créer la valeur que je sens que je peux amener parce que le produit, c'est moi un petit peu. Donc, je veux me détacher un peu de l'aspect poutine opérationnel. Donc là, je vais aller chercher quelqu'un pour s'occuper de ça. Le fractional, on va dans le fractional. Ça veut dire que tu fractionnes finalement ton temps entre plusieurs entreprises.
Ouais.
Au niveau des opérations principalement, on dirait que je le vois plus au niveau marketing, au niveau finance. T'sais, tu peux te donner une journée dédiée à ça. Opérations, j'ai pas mal le même siège, on ramasse un peu tout ce qui reste, les urgences, les différents cas. T'sais, c'est dur de planifier un mois d'avance ce qu'on va faire. T'sais, ça arrive, faut le gérer, faut être réactif beaucoup. Comment tu réussis à dealer avec cette genre de dynamique-là, quand tu dis, j'ai quand même 4 clients, je dois être à peu près 100% disponible pour chacun à tout moment. Comment tu organises ton temps, finalement, dans tout ça?
Je te dirais qu'il faut que tu deviennes vraiment bon à faire du contact switching. Ça, c'est comme la première affaire qui a été vraiment le nerf de la guerre pour moi, je te dirais, l'année passée. Parce que tu es sur un call avec un, après ça, tu embarques sur une autre affaire pour un autre client, puis tu sais, c'est juste, faut que tu sois capable de mettre ton cerveau à on puis à off extrêmement vite. Un coup que ça, c'est comme somewhat acquis, je pense qu'après ça, c'est vraiment une question de définir des scopes de travail, puis tu sais, c'est quoi les trucs où est-ce que toi, tu as des impacts. Fait que, tu sais, après ça, il y a différentes affaires qui marchent pour différentes personnes. Je pense pas que ce que je vais dire, c'est un guideline qui marche pour tout le monde. Mais, tu sais, moi, je suis extrêmement anal en termes de mon calendrier puis comment je gère. Fait que chaque minute de ma vie est prévue. Puis je suis parent. Fait que ça, c'est un nouveau superpower que j'imagine que tu peux relate aussi. Le temps est vrai. C'est beaucoup plus facile un coup que tu as des enfants de figure out qu'est-ce qui est prioritaire puis qu'est-ce qui l'est plus. Puis de faire ça, je pense que c'est comme quand tu dis, ben là, j'ai une heure pour faire ce truc-là.
Il faut que ça rentre dans une heure. Ouais, j'avoue, on est bon, je pense, à ignorer le bruit, je vais dire, autour. Je pense que c'est surtout ça. De fermer les courriels, à un moment donné, on se regarde, à un moment donné, je ne pourrais pas tout faire. Je ferme le bruit, je focus sur un dossier, je le règle. Après ça, on reviendra voir c'est quoi la prochaine urgence qui a besoin de nous. Puis on y va plus peut-être un dossier à la fois que quand on essaie d'avoir les courriels ouverts sur le deuxième écran, ouais. Puis que finalement, notre déficit d'attention part en fou. Là.
Mm-hmm. Mais c'est ça. Moi, je le gère vraiment comme par scope de travail. Tu sais, comme j'ai des clients avec qui le scope est super défini, puis j'en ai d'autres où est-ce que c'est moins. Dans le sens que, tu sais, si j'ai un client qui est sur retainer, puis que l'objectif global, au niveau de, ben, tu sais, faire grossir la business, ben, tu sais, après ça, c'est juste une question de, comme, il y a plein d'affaires sur lesquelles je pourrais travailler, mais c'est quoi, comme, le, tu sais, qu'est-ce qui est le oh my god, c'est quoi l'affaire?
C'est quoi le plus important, là? C'est quoi ton North Star, là, qu'on appelle,
puis après ça, tu sais, j'ai définitivement pas le temps de tout travailler sur tous les projets tout le temps, parce qu'après ça, ben, moi, si je commets 5 heures par semaine, ben, tu sais, j'essaie de faire mes heures, puis je travaille sur les projets, mais il y a tout le temps comme plein d'autres idées qu'on a, qu'on met dans le backlog, qu'éventuellement on va se rendre, puis tu sais, il y a des clients que je les gère de même, puis après ça, c'est plus, ben, tu sais, si j'ai du downtime, parce que des fois, je ferme des contrats, ben, je vais faire plus d'heures, puis tu sais, je le gère comme ça aussi, parce qu'il y a des clients que j'ai vraiment du fun, puis ça me dérange pas d'en faire plus. Mais tu sais, après ça, c'est vraiment juste, je pense, une question de gérer les scopes, puis gérer les attentes.
Donc, d'être capable de limiter ton carré de sable pour que gestion des opérations soit plus l'espèce de fourre-tout pour tout ce qui est pas pris en charge, tout ce qui saute à droite, à gauche. Donc, voici, moi, je vais faire ça pour toi. Si j'ai des idées, ben on va en discuter. On se garde peut-être un petit 20% de notre temps ensemble pour explorer d'autres pistes. Mais regarde, je me limite à ça. Si ça rentre pas là-dedans, ben ça se peut que j'ai pas le temps parce que j'ai d'autres clients. Puis c'est un peu ça. J'entends le compromis qu'on doit faire si on va chercher quelqu'un en mode, je vais dire, fractionnel, ben regarde, il sera pas là tout le temps, il me répondra peut-être pas à 11h le soir parce que là, il y a d'autres mandats, il y a une vie, il y a quelque chose.
Oui, ben je te dirais que j'essaie d'être pas mal responsive, mais après ça, c'est aussi de dire, ben c'est ça, c'est quoi les... Tu sais, s'il y a des tâches qui sont définies qui doivent être faites toutes les semaines, ça, c'est sûr que ça rentre dans mon workload, puis je prends pas le contrat si je peux pas. Mais je pense qu'une autre chose que moi, je suis vraiment bonne, c'est d'aller chercher les bons humains pour faire les trucs. Fait que, tu sais, quand je rentre dans un mandat, puis que tout est en feu, puis qu'il y a comme 1000 tâches, ben la première affaire que je vais faire, c'est comme, c'est quoi les trucs qui peuvent être dispatchés? Y a-tu un humain qui est plus efficace, ou, tu sais, comme, je peux-tu engager quelqu'un pour prendre une partie de cette affaire-là, pour, tu sais, ultimement, moi, ce que je veux faire, c'est régler les problèmes, right? Fait que si le problème, ça veut pas dire que c'est moi vraiment qui dois exécuter toutes les tâches, tu sais. C'est des fois le problème, c'est juste, ben, il y a une personne qui est experte en production de telle patente qui va aider mon client à faire c'est tout le contenu pour les formations, ben après ça, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, puis j'ai trouvé l'humain, tu sais.
C'est ça, trouver la solution, la mettre en œuvre, mais pas nécessairement tout faire.
C'est ça.
On s'en va sur un autre sur une autre tangente. Je voulais qu'on parle un peu de la formation des entrepreneurs. T'as mis un peu ton bagage au service de conférences, de formation, tout ça. Comment est-ce que tu vois un peu l'offre de formation pour les entrepreneurs? Quelqu'un qui a une idée, qui veut se lancer, est-ce que c'est important de un? Et comment est-ce qu'un entrepreneur peut aller se former? Parce que veut pas, chaque réalité est différente. T'sais, on en donne des cours d'entrepreneuriat, là, j'en donne moi-même, mais à un moment donné, il y a une limite à la théorie qu'on peut injecter, c'est de développer tes réflexes, tout ça. C'est quoi ta perception de ça?
Je te dirais que c'est un un marché ou je ne sais même pas comment appeler ça. Ça, l'écosystème a changé énormément dans les 8-10 dernières années, là, au niveau de comme la scène des incubateurs puis la manière que le funding fonctionne aussi, ça a beaucoup évolué. Je pense que maintenant, en termes de ressources pour les entrepreneurs, il y en a une tonne, mais après ça, c'est une question de choisir la bonne affaire pour toi. Il y a beaucoup plus de funding qui est disponible, tu sais, avec les bons incubations et tout ça, qui ne requiert pas que tu débarrasses comme plein d'équité right off the bat. Moi, je prône énormément le do it puis essayer de le figure out as you go. Là. Je veux dire, j'ai le pedigree pour le testimonial.
Essaie pas de tout savoir avant de te lancer. Fais le saut puis on verra ce que tu auras de besoin puis on gérera finalement au fur et à mesure. Mais ouais, lance-toi, puis expérimente finalement, teste l'eau, là. Puis tu sauras où te concentrer au lieu de surplanifier, je vais dire, avant. Là.
Ben, je pense qu'il y a une partie de... Tu sais, si t'as jamais fait ça, puis tu sais absolument pas dans quoi tu t'embarques, un incubateur, c'est nice parce que ça te donne une base de plein de trucs. Mais après ça, c'est que, tu sais, il y a du monde qui, là, ils font genre, je vais faire le programme, puis tel programme, puis tel programme, puis à moi, c'est comme, OK, mais à un moment donné, genre, la vie d'un entrepreneur, c'est pas juste de faire du programme hopping, mais c'est de bâtir une business, tu sais. Puis je pense qu'il faut pas que tu perdes de vue que l'objectif, c'est de bâtir ta business, puis toi, c'est d'aller chercher les ressources que toi, t'as besoin pour t'aider à faire ça. Fait que, tu sais, si tu sais que toi, ton talon d'Achille, c'est les finances, ben, forme-toi en Excel ou fais un cours de comptabilité ou trouve-toi un super bon mentor qui peut t'accompagner à ce niveau-là, tu sais. Puis ça n'a pas nécessairement besoin d'être via un incubateur ou whatever, tu sais. Comme moi, j'ai eu la chance de travailler avec une VP finance incroyable qui m'a, genre, tout appris. Puis là, maintenant, je suis, genre, complètement obsédée de Excel. Mais à l'époque de Food Room, genre, c'était le truc que j'essayais de faire le plus, tu sais.
Donc, colle-toi aux personnes qui ont les forces de tes faiblesses. Va chercher une petite sécurité, mais finalement, fais le saut. Tu seras jamais assez prêt pour ce que tu penses. Et il faut se lancer avant tout. Amélie, c'est tout le temps qu'on avait. On poursuit en musique, mais merci beaucoup d'être venue nous parler de ce beau parcours.
Ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation.
Merci beaucoup. Reste avec nous de l'autre côté, Annie Boilard.
La chasse à l'as se poursuit et son gros lot monte chaque semaine.
On appelle à Saint-Hubert.
Oui, allô?
Bonjour, est-ce que je parle avec Yvette? C'est Jean-Yves Lemay du FM 103.3 et France Dubé pour le tirage de la chasse à l'as de cœur.
Bonjour, Yvette.
Non, c'est Yvette Rossignol.
Yvette Rossignol, ben c'est ça qui est écrit sur mon coupon, Yvette.
Oh mon Dieu, je suis contente.
Je comprends. On vous appelle pour vous dire que vous gagnez déjà 1024 $. Ça, c'est à vous, c'est dans vos poches.
Oui.
Maintenant, vous avez la chance de tourner une carte.
C'est le 2.
Alors, Isabelle va sortir la carte numéro 2. On va savoir, Yvette, ce que vous gagnez aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on a? Oh mon Dieu! Oh,
Yvette! Yvette!
Êtes-vous nerveuse?
Non.
Non?
Non, mais j'ai gagné mes pièces.
Ben oui, effectivement. Alors, la carte France, qu'est-ce que c'est?
C'est le 8 de pique, Yvette.
Le 8 de pique, oui, je
le 8 de pique.
C'est sûr, ça. Je suis corotard!
Oui, puis dites-moi donc, vous aviez combien de billets dans la boîte? Vous en avez acheté combien?
Moi, j'en prends toute la carte.
L'as de cœur vaut maintenant 13 295 $. Jouez avec nous ce jeudi, 13h.
L'Incrédule, votre bistrot de quartier au cœur du vieux Longueuil, vous donne une raison de plus de rester sur la rive sud. Vivez en toute simplicité une expérience culinaire raffinée en famille, entre amis ou entre collègues. Le chef Benjamin Roussel vous fera découvrir les grands classiques français revisités, tels les tartares, la bavette, le risotto, les calmars et les riz de veau. De quoi satisfaire vos envies. Ouvert du mercredi au samedi, l'Incrédule peut devenir complice de vos événements, même de votre mariage. Réservez en ligne www.lincredule.ca.
Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca.
Retrouvez toutes nos nouvelles au fm1033.ca et par nos journalistes et animateurs sur Twitter et LinkedIn.
FM 103.3, la radio allumée, diffuse du plus haut sommet de la région montréalaise, la tour CBC Radio-Canada du Mont-Royal.
FM 103.3. Souvent d'avant.
et ça me saoule.
Sirène, c'est sa fin.
besoin de courage, de prendre un peu d'air. Il paraît que j'ai l'amour éphémère. Il paraît que j'ai l'amour éphémère. Un homme à la mer pour chaque fille amère. Un homme à la mer pour chaque fille amère. Je suis prise au large, mais il faut que je respire. Que je remonte à la surface. Je ne fais que ça jour et nuit. Jour et nuit. Veux-tu me pardonner? Je ne sais que déconner. Jour et nuit. Jour et nuit. Je suis prise au piège sur le dos d'un requin. J'ai beaucoup de chagrin. Le rivage est si loin.
Thank you. Jamais l'on n'aurait pu croire qu'une histoire comme la leur voit le bleu du soir. Jamais l'on n'aurait pu croire qu'une histoire comme la leur.
L'entrepreneur branché se poursuit jusqu'à 13h au FM 103.3 avec Max Trudel.
Rebonjour. Un grand merci à Amélie Morancy d'être venue nous parler de cette réalité de gestionnaire, je veux dire fractionnel ou à temps partiel, si on peut dire, qui est de plus en plus populaire dans le monde de l'entrepreneuriat, qui nous donne les outils d'avancer avec certaines expertises que nous n'aurions pas comme entrepreneur. Et parlant d'expertise que je n'ai pas, je réalise que je ne suis pas à jour sur mes tendances RH. Et c'est pour ça qu'Annie Boilard est ici. Question de nous mettre à jour sur les nouveaux buzzwords, les nouveaux termes qui apparaissent dans le monde des RH et les réalités qui, évidemment, justifient la création de ces mots-là. Annie, bienvenue à l'émission. Bonjour.
Bonjour, Max.
Donc là, tu vas me faire avoir l'air un peu nono là ce midi. Explique-nous un peu c'est quoi le nouveau vocabulaire RH qu'on doit apprendre en 2024?
Bon, alors la grande question, parlez-vous RH? Un peu comme si c'était une langue, hein? Parlez-vous le vocabulaire ressources humaines? L'idée, c'est qu'à travers ces mots qui parfois sont sympathiques, on peut déceler des tendances. On voit comment le marché du travail évolue. Puis on va sentir également qu'il y a des petits arômes générationnels à travers ça. On se souvient, Max, qu'en 2024, on connaîtra un phénomène qu'on n'a jamais connu avant, à savoir le croisement de nos courbes démographiques. Ce qui expliquera qu'en 2024, pour la première fois, nous aurons plus de représentants de la génération Z, de nos 27 ans et moins, que de boomers dans nos environnements de travail. Et par leur prédominance, les Z arrivent avec leurs mots, leurs yeux, leur façon de voir les choses. Et c'est ce qu'on va sentir à travers ces buzzwords aujourd'hui.
Donc, il y a un petit effet jeunesse là, qui amène ces buzzwords-là.
Oui, on va sentir ça.
All right. Commençons tout de suite avec notre premier terme, les emplois fantômes.
Bon. Alors, ça, lorsque nous sommes employés, parce que j'ai pensé mettre ce terme sur notre liste parce que moi, souvent, j'entends des gens qui me disent « Je ne comprends pas, une telle entreprise affiche un poste, j'ai l'impression d'être le candidat parfait pour ce poste, j'ai postulé une fois, deux fois, le poste est ouvert depuis bientôt une année, jamais personne ne m'a appelé. » Puis quand j'entends des histoires comme ça, je me dis, ah, c'est parce que les gens ne savent pas. Il existe des emplois fantômes. Alors, et ça, ce sont des emplois que les entreprises n'ont pas nécessairement l'intention de pourvoir. Et j'en parle parce que du côté entrepreneurial, c'est aussi un outil qu'on peut utiliser. Évidemment, utiliser avec beaucoup de parcimonie à la très, très rare occasion parce que ça nous coûte des points de crédibilité sur le marché de l'emploi, là, si on fait ça, c'est-à-dire qu'on affiche des postes, on paie pour afficher ces postes, mais on ne recrute personne parce qu'on n'a jamais eu l'intention de le faire. On ne pourra pas faire cette game-là très souvent. Mais ça permet parfois de constituer des banques de candidats quand on a peur peut-être au départ d'une personne qu'on veut prévenir. Parfois, on veut savoir aussi, par exemple, sur une technologie, on pense acheter une machine quelconque, on veut savoir s'il y a des gens sur le marché qui la maîtrisent, cette technologie. C'est des façons, avec des emplois fantômes, d'aller un petit peu prendre la température de l'eau au niveau des candidats.
Genre d'études de marché à travers les candidats qu'on pourrait attirer, recruter.
Oui, puis là, ça devient une étude de marché à très faible coût, parce que c'est sûr, c'est des sous afficher un poste, mais ça se compte en quelques centaines de dollars pour l'entreprise. C'est beaucoup plus abordable que, par exemple, de faire une étude de marché sur quelle entreprise ou quel concurrent utilise telle technologie. Donc, des fois, les entreprises glissent un petit peu, utilisent cet outil. Et là, c'est pour ça que les candidats comprennent plus trop ce qui se passe. Donc, ce sont nos emplois fantômes.
Je te suis à utiliser, comme tu le dis, avec parcimonie. Je me mets dans la peau là des différents employeurs qui affichent des postes, qui recrutent sur Evolia. Puis je sais qu'ils se font un devoir, généralement, d'aller voir le plus de candidatures possibles, voire d'acheter le plus de candidatures possibles, donc d'investir pour s'assurer de revenir aux candidats. Puis on, de notre côté, évidemment, on leur envoie des notifications pour être sûr qu'ils passent pas à côté. Parce que, tu sais, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, tu veux vraiment pas de brûler avec ces candidats-là. Je comprends le volet banque de candidature, mais tu sais, ça se fait, je pense, de façon transparente. Des fois, regarde, nous, on ne recherche pas, mais voici les expertises, vous pouvez postuler pareil. Et là, tu n'as pas d'attente, peut-être, de retour. Mais en termes d'études de marché, je trouve que c'est un terrain un peu glissant dans le contexte où on est.
Oui, je suis d'accord avec toi. À faire attention. Mais c'est quand même intéressant de savoir que ça existe.
Tout à fait. Tu me l'apprends aujourd'hui.
Notre deuxième mot, je nous amène sur le terrain du quiet hiring, qui est évidemment une réponse au quiet quitting. Tu vois le lien, Max. Le quiet hiring, c'est un peu l'inverse de ce que nous parlions tantôt. C'est l'idée pour les entreprises de recruter de façon silencieuse. On va l'utiliser à la fois quand on veut pas ébruiter, par exemple, des décisions d'affaires stratégiques. Je reviens avec l'exemple de l'achat d'une technologie, d'une machine, quelconque, quelque chose comme ça. Ou encore, lorsque nous ne sommes pas certains de la candidature de la personne que nous avons retenue, on est un peu dans une période d'essai. Souvent, c'est le candidat lui-même qui le dit. T'sais, je suis pas sûr que je vais aimer ça. Je vais essayer. Mais c'est vraiment de part et d'autre. Donc, on va faire du quiet hiring. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on recrute sans l'afficher nulle part. Et non plus sans trompette ni fanfare à l'intérieur lorsque la personne occupe ses fonctions. Ça crée parfois des moments cocasses. T'sais, je rentre le lundi matin, là, il y a Paul assis à côté de moi. Je dis, ben, c'est qui toi, tu sais? J'ai pas entendu parler de toi jamais. Parce que ça vient avec le quiet hiring. On fait pas grand tambour autour de ça. Généralement, on en informe l'équipe directe, mais au plus. Et ça vient du côté candidat réitérer l'importance de développer son réseau parce qu'il y a des postes qui ne sont jamais affichés nulle part, notamment le quiet hiring. Et c'est aussi une façon pour d'expliquer pourquoi les entreprises, des fois, on se retrouve avec des gens, on a l'impression de ne pas les connaître. Des fois, c'est ce qui se passe. T'as déjà vu ça du quiet hiring, Max?
Pas vraiment. Je l'imagine dans un contexte où bon, tu veux remplacer quelqu'un puis tu veux peut-être pas qu'il soit au courant, donc t'affiches pas le poste pour que la personne se dise ça ressemble pas mal à ma chaise, cet affichage-là. Je l'ai vu dans ce coin-ci, dans ce contexte-là, mais vraiment quelqu'un qui serait rendu en poste sans avoir été annoncé à l'interne de l'entreprise, je t'avouerais que ça ne m'est pas arrivé comme expérience.
Mais on le dit à l'équipe directe, là, les gens se rendent bien compte là, qu'il y a un nouveau. Fait qu'on dit à l'équipe proche, mais pas plus que ça. On ne dit pas à personne d'autre.
OK. Je garde l'œil ouvert pour ce genre d'arrivée à droite à gauche. J'imagine pas dans mon entreprise, comme c'est moi qui prépare les contrats, normalement, je devrais les voir arriver. Mais qui sait? On va jeter un œil, puis on s'en reparlera si j'en vois passer. Troisième tendance.
Oui, le quick talk. Donc, l'idée des départs bruyants. Évidemment, tout ce qui est référence Quick Talk, c'est référence à TikTok. Donc là, il y a vraiment des connotations générationnelles derrière ça, souvent plus appropriées pour les plus jeunes générations. Et le départ bruyant, c'est l'idée pour ces générations de promouvoir leur démission ou leur congédiement. Et là, on fait ça. Là, on sort les tambours et les fanfares. Les gens veulent partager leur opinion sur l'expérience qu'ils ont vécue, leur expérience employée, mais aussi l'expérience de fin d'emploi. C'est particulier. Parfois, les employeurs, les gestionnaires, les entrepreneurs sont surpris de voir que quelqu'un va afficher ouvertement un congédiement. Démission, c'est une chose, mais ça peut être congédié. Et là, des fois, on se fait prendre un petit peu par en arrière parce que ça a des ramifications. Ça vient teinter notre marque employeur. Et là, comme nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est pas la place publique de rétorquer. Fait que les gens disent souvent, ils prennent beaucoup d'espace dans leur communication en général. Puis nous, on se retrouve un peu coincés comme entreprise. Donc, c'est intéressant de savoir que ça existe. Intéressant de savoir que si ça arrive, les autres aussi savent que ça existe. Donc, souvent, on va prendre un ça avec un petit peu de grain de sel. Là, c'est pas la tragédie quand ça arrive dans un dans une entreprise.
C'est sûr que comme entreprise, t'as une ligne un peu plus corporative, tu peux difficilement les répliquer. Et là, tu vas avoir le mauvais rôle de toute façon. Là, si t'as ça de répliquer un employé qui critique ta marque employeur, tu vas avoir l'air de vouloir contrôler et teinter le message quand probablement qu'il y a un biais des deux côtés de ce côté-là. J'ai le goût de te demander, par contre, est-ce que c'est toujours négatif ou un employé pourrait dire hey, je quitte cette entreprise-là, mais wow, c'était un bon employeur, c'était vraiment pas pour moi. J'imagine qu'on voit pas beaucoup de ça.
Ça pourrait être des deux côtés. Puis il y a des gens qui vont le faire, puis c'est une bonne idée, hein, parce qu'on sait qu'on peut facilement revenir parfois dans un ancien employeur. On ne veut pas couper les ponts. Puis ça arrive des fois, on part pour des raisons, par exemple, je déménage ou peu. Puis ça n'a rien à voir.
Je me lance en affaires, par exemple, mais regarde, cet employeur-là qui m'a inspiré à partir de ma business, je vous recommande mon ancien poste. Quelque chose comme ça. Oui,
on va voir des choses comme ça. Mais ça attire plus l'attention quand c'est du côté négatif.
C'est plus tape à l'œil. On connaît les médias sociaux. Quand quelque chose est négatif, ça peut embraser assez vite. Moi, ce qui m'a retenu mon attention, en fait, là-dessus, c'est qu'il y a une industrie, j'ai l'impression, qui se crée autour de ça. La beauté de travailler dans les technologies de ressources humaines, c'est que tu te fais cibler par toutes sortes de publicités, honnêtement. Et j'ai souvent vu des cartes d'anniversaire, mais qui étaient des lettres de démission. Avec des cartoons, avec les fameuses cartes qui déplient en 3D, où la personne envoyait paître, si je peux dire, son employeur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de créativité de la démission. Avant, on pensait juste claquer la porte, à la limite, si on était en beau fusil. Mais là, il y a quelque chose d'un peu plus créatif, puis je sens un certain désir d'attirer l'attention, peut-être, de faire ça différemment aussi, tout autant que, finalement, de changer d'emploi.
Oui, ça devient une mode. Pour ça, c'est une tendance. C'est pour ça qu'on dit que c'est un buzzword. En français, ce sera un mot populaire. C'est parce que de plus en plus, ça prend de l'espace. Puis oui, il y a une espèce de compétition qui s'installe. Qui va le faire le plus fort possible, le fort dans le sens loud, dans le sens d'avoir le plus de rayonnement dans ses posts, dans ses commentaires. Ouais, c'est particulier.
C'est spécial, mais on ne sera jamais à court de surprises avec les médias sociaux. Allons-y de ta quatrième buzzword, de ta quatrième tendance.
Oui, le FOBO, à ne pas confondre avec FOMO. On connaît tous FOMO, Max, Fear of Missing Out. Le FOBO, c'est aussi une émotion, mais c'est le fear of being obsolete. Et c'est directement relié à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos milieux de travail. C'est donc l'émotion que ressentent certaines personnes à l'idée que l'intelligence artificielle, que la technologie, l'ordinateur pourrait prendre leur place, les remplacer dans le milieu de travail. Le FOBO, des fois, tu sais, tantôt, on en avait des exemples qui sont un petit peu ludiques, sympathiques. Là, on parlait des quick talk. C'est bon, c'est sympathique. Mais ça, FOBO, ça, c'est vraiment quelque chose que les organisations prennent au sérieux. C'est vraiment une émotion qui peut être paralysante pour certains employés. On voit les gens de ressources humaines s'informer, se former sur ce phénomène-là de plus en plus. Et on tient beaucoup à... On voit des discours pour rassurer les gens en disant que ça va être l'ordinateur et l'humain qui remplaceront ensemble l'humain, mais pas juste l'ordinateur qui remplacera l'humain. On prend ça au sérieux, ce phénomène de FOBO qui se passe. Et ça, c'est pas étranger à l'autre mot dont je voulais nous parler, l'autre phénomène qui s'appelle la gêne technologique, qui est aussi prise au sérieux, qui est aussi une émotion négative. Celle-ci n'est pas reliée exclusivement à l'intelligence artificielle, mais la gêne technologique, c'est typiquement l'émotion que ressent quelqu'un qui vient de joindre un emploi et qui n'arrive pas à faire des manipulations technologiques de base. Exemple. Organiser ses imprimantes, connecter les imprimantes sur son ordinateur. Exemple, on a un Zoom, un Teams, on a fait ce rodéo-là bien des fois, mais là, j'arrive dans une nouvelle entreprise, puis soit je n'entends pas, on ne m'entend pas, je n'arrive pas à régler le problème. L'émotion qui nous habite, il y a maintenant un mot pour ça, la gêne technologique.
J'ai le goût de dire qu'on n'a pas lieu d'être gêné technologiquement. Je prends tes exemples là, pour cause. On a beau travailler en technologie, il n'y a pas une semaine où on n'arrive pas pour parler et on est sur silencieux. Il n'y a pas une semaine où on n'arrive pas dans un Zoom, un Teams, un peu importe, qui veut pas fonctionner, ou une imprimante. Regarde, ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé, mais je suis sûr que j'aurais peut-être de la misère à le configurer. Et on travaille là-dedans. Je pense que de l'autre côté, comme fournisseur, comme concepteur de plateformes technologiques, c'est notre rôle de rendre ça facile, de rendre ça accessible. Et c'est normal, à la vitesse où ça va, que les employés, monsieur, madame, tout le monde, aient besoin de se former une fois de temps en temps, de poser la question. Il faut pas avoir honte de ça. Nous, on le fait. On pose la question aux employés. Est-ce que vous aimez la plateforme? Est-ce que vous appréciez d'avoir votre horaire là-dedans? Est-ce que c'est intuitif? Puis on a un score, justement, dans les 90 en général, mais c'est une des choses les plus importantes. Et quand on voit ce score-là baisser de 2-3 points, mais on se dit, OK, comment on peut le rendre plus efficace, plus facile à apprivoiser? Parce que c'est pas à l'utilisateur à tout le temps réapprendre 400 nouvelles technologies qui sont au cœur de son quotidien. Donc, n'ayez pas honte de ça. Vous allez vous habituer et sinon, ben, c'est la faute du logiciel en général qui a pas pris le temps d'évoluer. Annie, il nous reste quelques minutes là. Je veux qu'on passe les autres. Là, tu me parles de Bare Minimum Monday.
Oui, et le Lazy Girl Job, on en a entendu beaucoup parler en 2023, une espèce de phénomène où les gens cherchaient pas tant des jobs de paresseux, mais très flexibles. Ça a été le mot officiel pour ce courant, là, cette espèce de petite mode-là. Un autre nouveau mot qu'on voit apparaître, l'école vert. Donc, on connaît l'école blanc, l'école bleue. On dit maintenant l'école vert, les gens qui travaillent d'un point de vue environnemental, récupération des déchets, l'eau, filtration de l'eau, tout ça. Donc, on les appelle maintenant l'école vert.
OK, donc on vient vraiment séparer le côté environnemental des autres industries, là, finalement.
Oui, c'est ça, quelque chose de sympathique. Il y en a quelques autres, mais Max, je veux pas passer à côté de l'occasion de te parler des managers. As-tu une idée de ce que ça pourrait être un manager?
Quelqu'un qui a une équipe à charge et qui tente peut-être un petit peu trop de les materner, voire un petit peu de micromanagement?
C'est exactement ça. Alors, un manager, en anglais, c'est un momager. C'est quelqu'un qui est un gestionnaire qui passe un petit peu la ligne, notamment qui est très préoccupé par la santé mentale de ses équipes. Donc, le maternage, c'est beaucoup sur la santé mentale. Je nous donne un exemple, Max. Je travaille pour toi. On finit notre chiffre de travail. Puis là, tu me dis, hey, Annie, tu te coucheras tôt ce soir. T'as l'air fatigué. Bon. On s'entend. Mon heure de sommeil, ça n'a rien à voir avec mon boss. Là, c'est pas mon boss qui décide à quelle heure je me couche. On voit que le patron passe un peu la ligne.
Donc, c'est pas tant de s'en faire pour ta santé mentale que d'essayer de décider pour toi que tu as besoin de te coucher tôt et te donner des petites pointes non sollicitées, si on peut dire. Là.
C'est ça. Le gestionnaire passe la ligne. Généralement, on lui en veut pas. C'est tellement ancré dans la bienveillance. On répond d'un sourire sympathique, tu sais, puis on laisse passer. Mais c'est ça un manager. C'est quelqu'un qui en fait un petit peu trop, qui dépasse le cadre de notre relation professionnelle, mais parce qu'il veut tellement que j'aille bien. Fait qu'on va voir, tu devrais prendre tes vacances. Hey, tu devrais. C'est des petits commentaires comme ça, tu sais.
Qui sont bienveillants, mais qui, bon, regarde, laisse-moi me gérer. À pas confondre avec des politiques d'entreprise qui visent le bien-être des employés, là, évidemment.
Oui, ben oui, c'est ça, ne pas confondre. C'est vraiment le gestionnaire qui prend ce rôle, un petit peu, qui dépasse les lignes.
Je te suis. Hey, Annie, c'est tout le temps qu'on avait. Je suis sûr qu'il nous reste plein de tendances qu'on pourra regarder dans une autre capsule. Mais déjà, c'est très éclairant. Je te dirais que je vais garder l'œil ouvert sur ces différentes tendances-là. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Toujours un plaisir, Max. Au revoir.
Au revoir. Et merci encore à Amélie Morancy d'être venue nous parler de sa réalité de Fractional CEO et de son parcours entrepreneurial. Restez sur nos ondes pour un après-midi tout en musique.
L'immobilier simplifié, c'est possible. Mercredi matin, le 3 avril, 7h10, en compagnie d'un de mes collaborateurs, Jean-Luc Plourde, courtier hypothécaire, on va vous donner des suggestions, des conseils concernant l'achat ou la vente de votre propriété en expliquant les différentes étapes du financement. On va donc vous aider à démêler le tout de façon conviviale et agréable. Ici Maud Gilina de chez Remax Performance. J'ai vraiment hâte de vous retrouver en direct mercredi matin, 7h10, au FM 103.3 ou sur votre plateforme de balado préférée.
Vivez une expérience immersive dans l'univers du train. Expo Rail, le plus grand musée ferroviaire au Canada à deux pas de Montréal. Informations et réservations au exporail.org.
Moi, ce que j'aime le matin, c'est mon café et un bon bagel au sésame chaud frais du jour avec du fromage à la crème. De temps en temps, c'est un bagel carotte raisin avec